En route, chaperonné par Mademoiselle Bly, Tuppence se dit que Madame Copley, quelle que soit sa réputation, pouvait difficilement être plus bavarde que Mademoiselle Bly elle-même. Un torrent de déclarations à la fois précipitées et impérieuses s'échappait de sa bouche. La maison de Madame Copley, agréable et spacieuse, était en retrait de la rue, avec un jardinet fleuri sur le devant, un perron peint en blanc et une poignée de cuivre étincelante. Quant à Madame Copley elle-même, Tuppence eut l'impression qu'elle sortait tout droit d'un roman de Dickens. Toute petite et boulotte, elle paraissait venir vers vous en roulant comme une balle de caoutchouc. Elle avait les yeux vifs et brillants, des anglaises blondes et un air d'extraordinaire vigueur. Elle commença par émettre des réserves. « Ma foi, vous comprenez, je n'ai pas l'habitude. Non. Nous deux, avec mon mari, on dit toujours « les vacanciers, c'est différent ». Aujourd'hui, tous ceux qui le peuvent le font, il le faut, bien sûr. Mais pas vraiment à cette saison, pas avant juillet. Cependant, si c'est seulement pour quelques jours et si la dame ne craint pas un peu d'inconfort, alors peut-être que… » Tuppence lui assura qu'elle n'était pas difficile et Madame Copley, l'ayant observée avec attention, sans pour autant interrompre son flot de paroles, l'invita à monter voir la chambre, après quoi on pourrait envisager un arrangement. Mademoiselle Bly s'arracha alors à leur compagnie, à grand regret, car elle n'avait pas encore réussi à extorquer à Tuppence tous les renseignements qu'elle désirait, à savoir d'où elle venait, quelles étaient la profession et l'âge de son mari, si elle avait des enfants et mille autres questions d'un intérêt vital. Mais il se trouvait qu'une réunion devait se tenir chez elle sous sa présidence et elle tremblait de peur que quelqu'un d'autre ne s'empare de ce poste tant convoité. « Vous serez très bien chez Madame Copley, » assura-t-elle à Tuppence. « Elle va s'occuper de vous, je n'en doute pas. Et votre voiture ?»« J'irai la chercher tout à l'heure. Madame Copley me dira où la garer. La rue est assez large ici. Je peux même la laisser dehors, non ?»« Mon mari fera beaucoup mieux que ça, » trancha Madame Copley. « Il la mettra dans le hangar, juste là, derrière, dans le champ. Elle y sera très bien. » Les choses s'étant arrangées de la sorte à l'amiable, Mademoiselle Bly se dépêcha de courir à son rendez-vous. Le problème soulevé ensuite fut celui du dîner. Tuppence demanda s'il y avait un pub dans le village. « Oh, aucun endroit qu'une dame puisse fréquenter, » répondit Madame Copley. « Mais si vous pouvez vous contenter de deux œufs et d'une tranche de jambon avec un peu de pain et de la confiture maison, peut-être que… » Tuppence lui assura que ce serait plus que parfait. Sa chambre était petite, mais gaie et agréable, avec un papier orné de boutons de rose, un lit apparemment confortable et un petit air de propreté immaculé. « Oui, c'est un très joli papier peint, mademoiselle, » dit Madame Copley, qui semblait décidée à attribuer à Tuppence un statut de célibataire. « On l'a choisi pour les jeunes mariés qui viendraient ici en voyage de noces. Romantique, si vous voyez ce que je veux dire. » Tuppence reconnut qu'un état d'esprit romantique était en l'occurrence éminemment souhaitable. « Ils n'ont pas des milliers de cents à dépenser de nos jours, ces jeunes mariés. Ce n'est plus comme dans le temps. La plupart font des économies pour s'acheter un pavillon ou ont déjà des mensualités à régler. Ou alors ils veulent se meubler à crédit, ce qui ne leur permet pas de s'offrir une lune de miel mirobolante. Ils sont prudents, les jeunes, vous savez. Ce n'est pas eux qui jetteraient leur argent par les fenêtres. » Elle redescendit l'escalier en faisant claquer ses chaussures et sans cesser de parler. Tuppence s'allongea sur le lit pour faire un petit somme d'une demi-heure après cette journée plutôt fatigante. Cela dit, elle fondait de grands espoirs en Madame Copley. Elle se faisait fort, une fois bien reposée, de rendre la conversation on ne peut plus fructueuse. Elle apprendrait certainement tout ce qu'il était possible de savoir sur la maison près du pont, sur qui avait vécu là, qui avait bonne ou mauvaise réputation dans le voisinage, quels avaient été les principaux scandales et autres sujets d'intérêt de ce genre. Elle en fut plus convaincue que jamais, après avoir fait la connaissance de M. Copley, spécimen humain qui ouvrait à peine la bouche. Sa conversation se résumait à des grommellements, la plupart du temps affirmatifs. D'un ton plus assourdi, il exprimait parfois un désaccord. Mais pour autant que Tuppence pût en juger, il se contentait de laisser parler sa femme. Il n'écoutait la plupart du temps que d'une oreille, occupé qu'il était à organiser sa journée du lendemain, qui se trouvait être jour de marché. Rien n'aurait pu mieux convenir à Tupens. La situation aurait pu se réduire à un slogan « Vous cherchez une information, nous la détenons ». Madame Copley valait tous les postes de radio et de télévision du monde. Il suffisait de tourner le bouton et les mots s'en échappaient, accompagnés de gestes et d'une infinité de mimiques. Si sa silhouette était celle d'une balle en caoutchouc, son visage, lui, paraissait pétri de pâte à modeler. Les gens dont elle parlait prenaient aussitôt la forme de caricatures vivantes. Tupens mangea ses œufs au bacon avec d'épaisses tranches de pain et de beurre, chanta les louanges de la confiture de mûre maison, sa confiture favorite, comme elle le proclama sincèrement haut et fort, tout en faisant de son mieux pour emmagasiner le flot d'informations qui lui parvenait de façon à pouvoir les noter plus tard. Un panorama complet du passé de la région se déroulait devant ses yeux. Malheureusement, ces récits n'obéissaient pas à un ordre chronologique, ce qui en rendait parfois la compréhension difficile. Madame Copley sautait allègrement de 15 ans en arrière à 2 ans en arrière pour retourner sans crier gare aux années 1920 avec un détour par le mois précédent. Il faudrait soigneusement trier tout ça, mais pour obtenir quoi en fin de compte ? Le premier bouton que Tupens avait tourné n'avait rien donné, il s'agissait de Madame Lancaster. « Je pense qu'elle était des environs », avait hasardé Tupens d'un ton aussi vague que possible. Elle possédait un tableau, un très joli tableau peint par un artiste qui devait être connu par ici. « Quel nom vous avez dit déjà ?»«
Lancaster. » »«
Non, je ne me souviens d'aucun Lancaster dans les parages. » »«
Lancaster, Lancaster. » »«
Je me rappelle un monsieur qui a eu un accident de voiture. » »«
Non, c'est la voiture qui m'y fait penser. Une Lancaster. » Mais pas de Madame Lancaster.
Ce ne serait pas par hasard Mademoiselle Bolton? Elle aurait maintenant dans les 70 ans. Elle aurait pu épouser un Monsieur Lancaster. Et elle est partie pour l'étranger et j'ai entendu dire qu'elle s'était mariée là-bas.
L'auteur du tableau qu'elle a donné à ma tante est un certain Boscobel, si je me souviens bien, avait précisé Tupens.
Quel délice cette confiture!
C'est que je n'y mets pas de pommes comme la plupart des gens.
Ça gélifie mieux, à ce qu'il paraît, mais ça enlève tout le goût.
Oui, avait approuvé Tupens. Je suis bien d'accord avec vous.
Quel nom, vous avez dit, pour le peintre? Ça commence par un B, mais je n'ai pas bien compris le reste.
Boscobel, je crois.
Oh, je me rappelle très bien. Monsieur Boscowan. Attendez voir, ça devait être... La dernière fois qu'il est passé par ici, ça remonte à au moins 15 ans. Il était venu plusieurs années de suite. Il aimait l'endroit. Même qu'il louait une maison, une de celles que la ferme Hart destinait à ses ouvriers agricoles. Mais la municipalité en a fait construire d'autres. 4 nouvelles maisons spécialement pour eux.
C'était un vrai artiste, ce monsieur Boscowan, avait repris Madame Copley. Il portait de drôles de vestons.
En velours côtelé, je crois bien. Troué aux coudes et qu'il enfilait sur des chemises vertes et jaunes.
Oh, il était très pittoresque, ça oui.
J'aimais beaucoup ses tableaux.
Il faisait une exposition tous les ans.
Aux environs de Noël, je crois.
Non, qu'est-ce que je raconte? Ça devait être en été. En hiver, il n'était jamais là.
Oui, très joli, ses tableaux.
Rien d'angoissant, si vous voyez ce que je veux dire. Juste une maison avec 2 ou 3 arbres, ou bien une ou 2 vaches qui regardent par-dessus une barrière.
Mais très joli, très paisible, avec de belles couleurs.
Pas comme font certains de ces jeunes d'aujourd'hui.
Vous avez beaucoup d'artistes par ici?
Pas vraiment, c'est-à-dire à franchement parler, non. Parfois en été, une ou deux dames qui dessinent, mais ne me demandez pas ce que j'en pense.
On a eu un petit jeune l'année dernière qui se prétendait artiste, mal rasé. Je ne peux pas dire que ses tableaux me plaisaient. Des drôles de couleurs qui tourbillonnaient dans n'importe quel sens. On ne reconnaissait rien du tout. Ça ne l'a pas empêché d'en vendre pas mal de ses peintures, avec ça qu'elles n'étaient pas bon marché.
5 livres. Voilà ce qu'elles auraient dû coûter, intervint M. Copley si soudainement que Tupens se sursauta.
C'est ce que pense mon mari, expliqua Mme Copley, reprenant son rôle d'interprète. Qu'aucun tableau ne devrait coûter plus de 5 livres. Les tubes de peinture, c'est moins cher que ça. C'est bien ce que tu penses, n'est-ce pas, Georges?
Ah, fit Georges.
Monsieur Boscowan a peint la maison près du canal et du pont. Waterside ou Watermead, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je suis arrivé par là tout à l'heure.
Ah, c'est par là que vous êtes venu. Quelle route, hein?
Tellement étroite. C'est une maison bien isolée, c'est ce que j'ai toujours pensé. Moi, je ne voudrais pas y vivre.
trop à l'écart.
Tu ne trouves pas, Georges ?
Georges émit un borborygme qui exprimait un vague désaccord, peut-être même un peu de mépris pour la couardise des femmes.
« Alice Perry habite là !» signala Madame Copley. Tupens abandonna son enquête sur M. Boscawen pour bifurquer sur la piste des Perry. Il valait toujours mieux, elle l'avait compris, suivre Madame Copley dans sa façon de sauter d'un sujet à l'autre.
« Drôle de couple, ces deux-là !» commenta Madame Copley. Georges émit un grognement d'approbation.
« Ils vivent dans leur cocon, ils ne se mélangent pas beaucoup, comme on dit.
Et cette dégaine qu'elle affiche, Alice Perry, je vous demande un peu. »
« Une folle !» décréta M. Copley.
« Bon, je n'irai pas jusque-là. Elle a l'air d'une folle, c'est vrai, avec tous ses cheveux qui flottent au vent, et ses vestes d'homme et ses grandes bottes de caoutchouc qu'elle porte tout le temps. Et les choses étranges qu'elle dit, sans compter qu'elle répond souvent à côté de la question que vous lui posez.
Mais folle, non, je ne dirai pas ça.
Bizarre, c'est tout.
Est-ce que les gens l'aiment bien ?
On la connaît à peine, et pourtant ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Évidemment, on colporte toutes sortes de ragots à son sujet, mais... c'est toujours comme ça, pas vrai ?
Quelle sorte de ragots ?
Madame Copley n'avait rien contre les questions directes, elle n'était que trop impatiente d'y répondre.
Elle convoquerait les esprits le soir, à ce qu'on dit, à s'asseoir autour d'une table, et à ce qui paraîtrait la nuit, il y a comme des lumières qui rôdent autour de la maison. Et on dit aussi qu'elle lit des livres pour les initiés, avec plein de dessins, des cercles et puis des étoiles. Mais si vous voulez mon avis, celui des deux qui n'a pas toute sa tête, c'est Amos Perry.
Il est un peu simplet, c'est tout, intervint M. Copley avec indulgence.
Là, tu n'as peut-être pas tort, n'empêche qu'un temps, il a eu droit à son lot de racontards lui aussi. Il adore son jardin, mais il n'y connaît pas grand-chose.
Ils n'ont que la moitié de la maison, n'est-ce pas ? Enchaîna Tupens.
Madame Perry m'a invité très gentiment à entrer.
Vraiment, elle vous a invité. Je ne crois pas que j'aurais aimé entrer dans cette maison, frissonna Madame Copley.
Leur côté est sans problème, lui garantit M. Copley.
L'autre côté ne l'est pas ? Demanda Tupens. Le côté qui donne sur le canal ?
Ma foi, il court un tas d'histoires à ce propos. Évidemment, ça fait des années que personne n'y vit plus.
On raconte qu'il y a quelque chose d'étrange là-bas, tout un tas d'histoires. Mais quand vous cherchez à creuser, il n'y en a plus aucune que quelqu'un se rappelle vraiment. Ça date d'il y a très longtemps. Elle a été construite il y a plus de 100 ans, vous savez, par un gentilhomme de la cour pour une jolie dame, à ce qu'on dit.
« De la cour de la reine Victoria ?» demanda Tupens avec intérêt.
« Non, je ne crois pas. Elle était bizarre, la vieille reine. Non, avant ça, du temps d'un des Georges. Ce gentilhomme, il venait la voir régulièrement et un jour qu'il s'était disputé, il lui a coupé la gorge.
« Quelle horreur !» s'écria Tupens. « Et il a été pendu ?»«
Non, oh non, pensez donc. » D'après ce qui se dit, pour se débarrasser de sa dépouille, il l'aurait emmuré dans la cheminée.
Emmuré dans la cheminée ?
Il y en a qui prétendent que c'était une nonne qui s'était enfuie de son couvent et que c'est pour ça qu'il fallait qu'elle soit emmurée. C'est comme ça qu'ils pratiquent dans les couvents.
Mais ce ne sont pas des nonnes qui l'ont emmurée.
Non, non, c'est lui, son amant, qui lui a réglé son compte. Il a briqueté la cheminée de bas en haut, d'après ce qu'on dit, et scellé une grande plaque de métal par là-dessus. Quoi qu'il en soit, on ne l'a plus jamais vue se promener dans ses beaux atours, la malheureuse. Vous en trouverez bien sûr pour vous dire qu'elle est partie avec lui, vivre en ville ou ailleurs. Les gens entendaient des bruits et voyaient des lumières le soir dans la maison, et à la nuit tombée, il y en a encore beaucoup qui refusent de s'en approcher.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Demanda Tupens, qui estimait que remonter au-delà du règne de la reine Victoria était allé chercher un peu loin dans le passé.
« Ma foi, tellement de choses, je ne sais pas au juste. Je crois qu'un fermier, un nommé Blood Geek, l'a acheté. Il n'est pas resté longtemps. Un gentleman farmer, comme on dit. La maison lui plaisait sans doute, mais les terres, il ne savait pas trop quoi en faire. Alors il a revendu. » Elle a changé de main plus souvent qu'à son tour, avec des ouvriers qui venaient toujours faire des transformations, des nouvelles salles de bain, ce genre de fantaisie. Un moment, il y a eu un couple, je crois, qui élevait des poulets. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que cette maison commençait à avoir la réputation de porter la poisse. Tout ça, c'était avant mon temps. Je crois que M. Boscawen a songé lui aussi à l'acheter. C'est à ce moment-là qu'il a peint son tableau.
Quel âge à peu près avait M. Boscawen quand il était ici ?
40, je dirais, peut-être un peu plus. Il n'était pas mal dans son genre.
un peu trop enveloppé quand même, et sacré coureur de jupons avec ça.
« Ah !» grogna M. Copley, et cette fois c'était une mise en garde.
« Enfin, les artistes, on sait toutes ce que c'est !» reprit Mme Copley, incluant Tuppence parmi les avertis. « Ils vont souvent en France et prennent des manières françaises. »
Il n'était pas marié ?
Non, pas quand il est venu la première fois. Il avait le béguin pour la fille de Mme Charrington, mais ça n'a rien donné. Une fille charmante, mais trop jeune pour lui. Elle n'avait pas plus de 25 ans.
« Qui était Mme Charrington ?»
interrogea Tuppence, prise au dépourvu par cette introduction de nouveaux personnages.
« Mais qu'est-ce que je fabrique ici ?» se demanda-t-elle, tout à coup submergée par la fatigue. « Je prête l'oreille à tout un tas de potins en imaginant des meurtres qui n'ont jamais eu lieu. C'est clair maintenant. Tout a commencé quand une charmante vieille dame au cerveau brouillé s'est mise à se remémorer les histoires que M. Boscawen ou un autre qui lui aurait offert ce tableau lui avait autrefois raconté sur la maison et sur la légende selon laquelle quelqu'un aurait été emmuré vivant dans la cheminée. Et pour Dieu sait quelle raison, elle s'est figurée qu'il s'agissait d'une fillette. Et du coup, me voilà ici en train d'enquêter sur des chimères. Tommy m'a dit que j'étais une idiote. Eh bien, il avait raison, je suis la reine des idiotes.